bớt cục quá.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la 4e dimension, comme tous les 4e vendredis du mois. Avec, pour présenter l'émission, Mathéo et Laurent, et Claude à la technique.
Et Damien en soutien.
Et Damien en soutien, l'émission de ce soir est consacrée à la forêt. La forêt, oui. Un thème plus complexe que ne le donne à voir la définition sommaire de mon petit Larousse, qui disait « une grande étendue de terrain couverte d'arbres ». Les arbres, en effet. S'intéresser à la forêt, c'est aussi s'intéresser à l'arbre, un organisme vivant beaucoup plus vieux que nous, les hommes, puisqu'ils sont apparus, a priori, il y a 380 millions d'années. Mais la forêt, c'est davantage qu'une simple juxtaposition d'arbres, c'est tout un système vivant avec de nombreuses interactions. En France métropolitaine, la forêt couvre 17 millions d'hectares, soit 170 000 km carrés. On peut ajouter aussi, bien sûr, les dom-toms et notamment la Guyane, qui compte près de 83 000 km carrés de forêt amazonienne. Donc pour la métropole, cela correspond à un taux de boisement de 30% du territoire, ce qui est proche du taux mondial. Et ce taux, et cette superficie, est en progression. Néanmoins, cet indicateur ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. En effet, la progression de la surface forestière ne suffit pas à s'assurer de la bonne santé de la forêt. Nos invités nous l'expliqueront certainement, mais la forêt recoupe des réalités très différentes d'un point de vue biodiversité et intérêt écologique. La forêt est aujourd'hui exploitée, le bois est une ressource utilisée dans l'industrie, comme matériaux ou comme énergie. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une dynamique de surexploitation ? Est-ce que la forêt est encore un espace naturel ? Et aujourd'hui, à cette exploitation vient s'ajouter les enjeux de biodiversité, de qualité environnementale, la question du changement climatique qui se fait à une vitesse extrêmement rapide au regard du cycle de vie de l'arbre. Alors, est-on en train de couper la branche sur laquelle on est assise ? Donc, pour en discuter, deux invités, Hervé Le Bouler, qui est responsable des questions forestières à France Nature Environnement, et Gilles Van Petegem, qui est secrétaire général du syndicat EFA-CGC, donc le syndicat des cadres de l'environnement, de la forêt et de l'agriculture.
Est-ce que nos invités sont là ?
Oui, oui.
Ah, c'est parfait, parce qu'on a une grande première, on se sent un peu seul dans le studio, nos deux invités sont au téléphone.
Donc vous pourrez retrouver cette émission comme les précédentes sur le site internet de Mode d'emploi, donc www.mode-d-emploi.org. Voilà, j'espère que vous êtes bien assis dans vos canopées et c'est parti pour une heure d'émission.
On va commencer l'émission par une question toute simple. Qu'est-ce qu'une forêt ? À partir de combien d'arbres on forme une forêt ? Qui veut répondre à cette première question toute simple, mais qui nous intéresse ?
La question, elle est, je dirais, il y a une définition qui est celle de l'Institut Forestier National qui suit, qui fait les statistiques au niveau de la forêt. Et on considère qu'on a une forêt à partir du moment, et la définition, elle est très technique, hein. À partir du moment où, quand on a un jeune arbre, on s'imagine quand il va devenir, à l'âge adulte, un arbre qu'on voit dans nos forêts, nos grands chênes, ou nos grands hêtres, ou nos grands épicéas qu'on voit dans nos forêts, et quand le couvert qui est produit par son houppier représente, dans l'ensemble des couverts, 10% de la surface sur laquelle on est. Voilà, donc c'est, à la limite, il suffit d'avoir quelques arbres pour avoir, cette notion de forêt, quoi.
D'accord, ok.
Ouais. Moi, je dirais, c'est compliqué, c'est un sujet, on peut passer deux heures dessus, qu'est-ce que c'est qu'une forêt ? La définition du petit Larousse n'est pas si mauvaise que ça. Je dirais, une forêt, c'est un endroit où il y a d'abord des arbres, oui, effectivement, et aussi dans un endroit où il y a plein d'autres choses, sauf des hommes qui y habitent. C'est ce qui fait que Le bois de Vincennes est sans doute une forêt, mais les arbres du jardin du Luxembourg ou certains boulevards parisiens qui sont couverts d'arbres ne sont pas des forêts. Voilà, c'est assez compliqué. On a parfois du mal à imaginer que dans les déserts ou les limites des déserts ou en haute altitude, on peut avoir une forêt avec des arbres qui peuvent être rares et pas très hauts. Bon, je dirais que c'est quand même assez simple pour un habitant moyen de la planète Terre, ou en tout cas de la France, de faire la distinction quand il est dans une forêt ou quand il ne l'est pas. Quoi.
D'accord. Et alors, au-delà de cette définition, comment fonctionne une forêt? Enfin, pour le grand public, est apparue un peu la notion de communication entre les arbres ces derniers temps. Donc, est-ce que c'est la recherche qui a progressé? En tout cas, enfin voilà, je ne sais pas si vous voulez nous en dire quelques mots.
Bah, normalement, ouvrez un bouquin d'écologie de base. Une forêt, je dirais, c'est toute une succession de transferts d'énergie et de matière, avec à la base le soleil qui produit de la matière végétale, en grande partie liée aux arbres, et ensuite tous ceux qui, de fil en aiguille, mangent les uns et les autres, jusqu'à ce que la fin, ça se décompose et que ça forme un cycle. Je ne sais pas si vous savez, mais un arbre se nourrit de la décomposition de ses propres feuilles. Et dans la vie d'un arbre sur 200 ans, le cycle est fait une vingtaine de fois. Donc c'est un ensemble de relations dans lequel tout le monde a sa place, à partir de la machine initiale qui est la machine solaire et l'eau. Et ensuite tout ça s'organise, c'est très complexe. Des champignons aux bactéries jusqu'aux chevreuils. Et ça fonctionne bien s'il y a un équilibre. Mais l'équilibre est en général naturel.
D'accord.
Sa vie et sa mort.
Ok. Et comment se porte la forêt en France aujourd'hui?
Gilles a des informations, il revient d'un congrès européen qui est assez inquiétant.
Voilà, donc au niveau français et voire au niveau européen, il y a une inquiétude quand même qui est assez marquée sur l'état de santé, je dirais, global des forêts, même si c'est difficile à constater, je dirais, de visu par nos concitoyens, mais pour le forestier que je suis comme Hervé, il y a tout un tas d'indicateurs qui montrent qu'il y a des choses qui se mettent à dysfonctionner. Par exemple, on a des attaques massives de bactéries, on a des sur des espèces, on a des attaques massives d'insectes, on a des évolutions, surtout, ça se voit beaucoup dans les zones de montagne. Bon, on parle beaucoup du recul des glaciers, mais plus les glaciers reculent, plus la forêt monte en altitude. Donc on le voit, si nos auditeurs vont sur Chamonix, quand on prend le téléphérique qui monte vers l'Aiguille du Midi, on voit la progression, de la forêt qui remonte petit à petit vers l'Aiguille du Midi. Alors ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, on se réveille pas le matin, mais c'est un constat qu'on peut faire. Et on voit aussi dans ces vallées alpines qu'il y a des évolutions. Avant, on avait des épicéas, dans le bas, quelques sapins, les gens étaient habitués à ces résineux dans les vallées alpines. Et maintenant, il y a le hêtre qui progresse, qui était là un petit peu au début parce que, il se faisait sa petite place. Mais maintenant, il occupe plus de 15% de la surface, alors qu'avant, c'était une espèce qui était, annexe. Donc il y a tout un tas d'évolutions.
Mais là, c'est à cause de l'homme ou à cause de la nature
L'évolution de la nature. L'homme le forestier ne fait, en fait, qu'il soit forestier privé ou public, hein, peu importe le gestionnaire, il fait qu'accompagner la nature, en fait. C'est quelqu'un qui va favoriser certaines choses parce qu'il va avoir, une approche de la forêt pour améliorer la qualité de la forêt, la rendre plus, on va dire, plus belle, même si c'est pas le terme forcément consacré, mais c'est un petit peu ça. Et donc là, on va avoir quelque chose qui va évoluer parce que les conditions climatiques, les conditions d'eau évoluent énormément. Je vais vous citer des petits exemples européens. On a en Turquie, on est aux frontières de l'Europe, mais la Turquie, ils ont des invasions d'insectes qu'ils n'avaient jamais vues avant dans leurs forêts, et c'est des insectes qui viennent de la zone subsaharienne. Donc à un moment donné, ils ont forcément trouvé un continuum pour pouvoir monter jusqu'en Turquie. On a nos collègues.
Ils peuvent arriver dans une valise, quoi. C'est plutôt ils peuvent arriver des mouvements dans une climatiques valise, qui en fait.
L'histoire forestière est pleine de choses transportées par l'homme, puisque notamment le chancre du platane qu'on a dans la zone méditerranéenne est lié au débarquement des libérateurs en 45 qui sont venus avec des caisses, je dirais, de munitions et d'armes qui étaient du platane américain et qui contenaient à l'intérieur justement ces éléments, ces pathogènes qui ont provoqué les attaques sur les platanes et le chancre du platane qu'on connaît dans la zone méditerranéenne en France.
Ouais, voilà. Moi, je compléterais parce que c'est bon. Il se trouve que les relations entre le climat et la forêt, c'est mon métier. Bon, je suis scientifique. J'avais un poste de recherche sur les relations forêt-climat. Et si on veut prendre un peu de recul. On se reporte à la fin de la dernière glaciation où en France on avait des steppes et des toundras, le climat s'est réchauffé et il s'est stabilisé il y a environ 10 000 ans, 8 à 10 000 ans, et sont arrivées du sud les espèces qui forment aujourd'hui les forêts qu'on connaît, que ce soit le chêne, le hêtre, le sapin, l'épicéa. Ensuite le climat n'a pas bougé, il a bougé de moins de 1,5 degré pendant 8 000 ans. Et se sont installés des équilibres, des écosystèmes, qui fait que lorsque il y a des perturbations, que ça peut être une tempête, quelques années sèches, il y a une partie de la forêt qui souffre, des arbres qui meurent, mais il y a une résilience et il y a tout l'écosystème qui se reconstitue. C'est d'ailleurs très remarquable que lorsque l'homme abandonne des terres agricoles, très vite, en 30 ans, on voit apparaître une forêt, et pas n'importe quelle forêt. La forêt qui est constituée des espèces locales. Lorsque le forestier introduit des espèces autres, c'est l'exemple du Douglas américain, il ne peut le faire qu'à condition que le climat soit adapté à l'espèce qu'on introduit. Là, aujourd'hui, ce qui mène la danse, c'est le climat. Et je dirais c'est une danse macabre parce que chaque type de forêt a des limites entre lesquelles elle peut être présente. C'est ce qu'on appelle la niche écologique. Et si on sort de la niche écologique, il n'y a pas de salut. Et là, actuellement, on est en train de le découvrir, mais on le découvre jour après jour, ces semaines et ces mois-ci. C'est une énorme inquiétude de l'ensemble du monde scientifique et forestier. C'est que le réchauffement est tel, c'est-à-dire il dépasse 1,5 degré, et là, très probablement, mais je parle comme les gens du GIEC quand ils disent très probablement, c'est que c'est pas quasi certain, mais c'est sans doute ce qui est en train de se passer. Les forêts sont en train de sortir de leur zone d'équilibre, et c'est une sortie durable, je dirais définitive, qui va amener des dépérissements massifs, à commencer par des désorganisations, des insectes qui vont se développer, des maladies qui vont se développer, comme tout organisme qui devient un peu faible. Et dans l'histoire, ça s'est passé des dizaines de fois, avec les périodes chaudes, les périodes froides, mais ça durait, ça se produisait sur 2000 ans, 3000 ans, et donc les espèces adaptées aux nouvelles conditions, en l'occurrence si on prend Paris, les espèces adaptées aux conditions climatiques de la région parisienne, c'est du chêne vert, c'est du chêne pubescent, c'est du pin qui est situé en zone méditerranéenne. Ils ne peuvent pas arriver parce qu'ils ne peuvent se déplacer que par les graines et ils ne peuvent le faire qu'à un rythme de 100 mètres par an. Donc l'énorme inquiétude actuellement, c'est de voir dépérir les forêts et toute la biodiversité qui va avec sans que naturellement on trouve de quoi les remplacer. Voilà, cette inquiétude qui est mondiale et qui est européenne est en train de passer devant tous les autres débats de surexploitation, malforestation. Alors, est-ce que c'est la faute de l'homme ? Oui, bien sûr, puisque c'est l'homme qui a provoqué le changement climatique. Mais c'est pas la faute du forestier.
D'accord, oui. Ok, c'est pas lié à l'exploitation, mais c'est lié à l'activité.
On n'a plus de deuxième partie, là.
Voilà, je suis désolé, hein, mais on est une radio associative, puis vous faites votre taf. Mais ça ne veut pas dire que l'homme, en faisant des erreurs, en simplifiant les écosystèmes, n'aggrave pas la situation, mais le grand moteur, aujourd'hui, au XXIe siècle, des menaces sur la forêt pour la France, hein, c'est pas le cas en Amazonie ou dans les pays tropicaux. Ce grand moteur, c'est le changement climatique.
D'accord. Donc c'est pour les zones tempérées, là, c'est ça. C'est pour les au moins l'hémisphère nord et l'Europe, c'est ça. C'est ce que vous dites.
Ouais. Oui.
Ok. Eh bien, on va y revenir juste après la première pause musicale de cette émission et on écoute La Mano Negra, Paris la nuit. C'est notre dédicace, enfin notre référence à Jacques Chirac.
Sympa. Sympa.
Tenez, regardez. Les petites lumières. Les petites lumières de l'île du matin.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et on vient d'écouter la Mano Negra et nous sommes dans l'émission de la quatrième dimension sur la forêt.
Alors avant de revenir sur les différentes menaces qui pèsent sur la forêt et apparemment la plus grande menace, le changement climatique, est-ce qu'on peut faire un petit tour de la carte d'identité de la forêt en France, la surface, la typologie de forêt, la répartition entre le public et le privé,
les essences.
C'est peut-être Monsieur Van Petegem, vous pouvez nous.
Oui, alors sur cette partie, la forêt en France, hein, vous l'avez dit en introduction, hein, c'est 30% en gros du territoire national. C'est beaucoup plus que ce qu'il y avait au moment de la Révolution française. Hein. Faut pas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête.
Beaucoup plus, c'est.
C'est plus du double. C'est plus du double.
D'accord.
Le double, ça a doublé.
Ça a plus que doublé depuis la Révolution française parce qu'il y a eu la déprise agricole, parce qu'il y a eu des grands phénomènes, de boisement. À l'époque de Napoléon III, hein, les boisements en zone de montagne pour réduire les risques d'inondation et de d'éboulement et d'avalanche également. Il y a eu les grands boisements de la Sologne et des Landes qui, à l'époque, maintenant, je pense que Hervé serait contre, mais à l'époque, on appelait ça pour assainir les marais. Et voilà, maintenant, on dirait qu'il faut protéger les zones humides, mais bon, l'histoire est faite comme ça. Mais donc, ça a été vraiment une grande progression en termes de surface forestière au niveau national.
Faut remonter à 1350, 1400 pour trouver autant de forêts en France.
Et d'accord, on avait déjà connu cette
C'est que le phénomène continue, on pensait que ça allait s'arrêter. Et actuellement, les forêts, la surface totale augmente de 80 à 100 000 hectares par an, chaque année. Hein. Et ça se produit essentiellement dans les basses montagnes du sud de la France, parce que l'exode rural continue. Et je dirais, comme il n'y a plus personne qui habite là-bas, et ben personne s'en rend compte.
C'est plus le résultat de la nature que de plantations.
Ah oui, aujourd'hui, depuis l'an 2000, eu exclusivement le résultat de la nature.
Ouais.
Exclusivement. C'est.
Bon, alors il y a un peu
phénomène
de positif quand même.
Qui laisse tout le monde sur le derrière. Hein.
Alors la forêt, en gros, c'est 75% de cette surface, c'est des propriétaires privés, avec une très grosse majorité de petits propriétaires qui ont moins de 5 hectares.
D'accord,
donc c'est vraiment très morcelé. Okay. Le reste, 25%, on va dire. C'est la forêt publique qui appartient soit à l'État, soit à des collectivités publiques. Hein, souvent, c'est des communes ou des parties de communes, mais c'est souvent des communes. Et dans ces 25%, il y en a un tiers qui sont ce qu'on appelle les forêts domaniales. Voilà, pour la région parisienne, Fontainebleau, les grandes forêts, Saint-Germain, enfin voilà, sur Versailles, sur Rambouillet. Et puis, on a Sénart. Et puis après, le reste, je dirais les deux tiers, c'est des forêts communales. Donc ça, c'est à peu près la cartographie. Tout ça, on le voit pas trop, mais en termes d'incidence vis-à-vis du public, c'est quand même 400 000 emplois dans l'ensemble de la filière, tout ce qui est tout ce qui tourne autour du bois, c'est 400 000 emplois, c'est autant que l'industrie automobile, hein, c'est quand même un secteur.
Ah oui, d'accord.
Mais beaucoup plus atomisé, beaucoup plus rural, je dirais, comme, comme emploi. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est que au niveau de la France, qui a quand même un énorme massif forestier, on a quand même, c'est la deuxième déficit en termes de balance de commerce extérieur, c'est 6,5 milliards d'euros de déficit, alors qu'on est un...
C'est-à-dire qu'on exporte 6 milliards et demi de plus que...
On importe.
On importe. C'est-à-dire qu'on a une structuration, je dirais, de la filière bois, de ceux qui transforment le bois, qui a besoin de s'adapter, de se moderniser. Moi, je suis pas un spécialiste, hein, de l'industrie. Moi, je suis un gestionnaire de forêt. On est avec une structure qui n'est pas suffisamment bien adaptée et on exporte du bois brut, on va dire, et on réimporte du bois transformé, des meubles sous différentes formes.
Ah oui, dans vos chiffres d'import-export, c'est...
C'est la conséquence, de décennies d'abandon de la filière industrielle de transformation. Moi, je suis dans le sud des Landes, dans une région où il y avait Agedmo, qui était la capitale européenne de la chaise. Fabriqué avec du hêtre de montagne, tout ça, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, quand vous achetez des meubles, il est extrêmement rare que ce soit des meubles fabriqués en France, c'est des produits d'importation, et ça peut être, ce qui est scandaleux et paradoxal, des meubles qui sont fabriqués en Italie ou en Roumanie avec des bois français qui sont exportés.
Ça fait double trajet.
Et évidemment, là-dessus, ça a eu des conséquences très négatives sur l'économie rurale, sur l'emploi, et ça arrive aussi à la conséquence qu'on a une ressource en bois feuillu en France qui est abondante et de grande qualité. On a 135 espèces d'arbres en France, dont les trois quarts, peut-être plus, sont des espèces feuillues, à comparer avec la Finlande, où ils ont misérablement trois espèces de résineux. Et ces bois-là ont très peu de valeur. Aujourd'hui, le frêne, le merisier, tout ça, c'est... ça part en bois de chauffage parce qu'on n'a pas en France d'industrie de transformation. On est un pays qui est sous-développé économiquement en matière forestière, puisque on a bien sûr des belles entreprises, des entreprises qui transforment des bois résineux pour faire de la construction, mais pour le reste, on exporte du bois brut et on réimporte des meubles.
Alors expliquez-nous, les feuillus, c'est plutôt pour les meubles, l'énergie et les résineux pour le bâtiment.
Oui, mais le feuillu peut être utilisé aussi en construction. On n'a pas fait les efforts nécessaires pour avoir une valorisation économique des feuillus. Et brûler du bois feuillu de qualité en bois énergie, c'est se chauffer avec du diamant, et c'est vraiment scandaleux qu'on ait cette situation, quoi.
Voilà, on parle charpente résineux parce que c'est quelque chose qui, c'est des bois qui sont relativement plus faciles à travailler.
Ouais.
Regardez la Notre-Dame de Paris, la charpente était en bois feuillu, ouais. Et c'était quelque chose qui tenait très bien. Donc voilà, même Château de Chambord, c'était une charpente en châtaignier. Enfin bon, voilà, et c'est des produits qui peuvent être utilisés. Maintenant, il y a plein de techniques. J'irais qu'on peut adapter au bois feuillu, comme ce qu'on appelle dans le jargon technique le lamellé-collé, où on aboute des petits morceaux de bois qui sont pas forcément d'excellente qualité ou qui permettraient pas d'avoir des grandes poutres, et on les assemble, on les colle les unes aux autres, et ça permet de faire des grandes portées. Il y a plein, vous avez de halles de sport avec des choses de cette nature-là, et l'avantage, c'est comme on croise un petit peu le bois dans tous les sens. Donc on évite tous les problèmes que les gens connaissaient, c'est-à-dire du bois qui va se fendre, le bois qui va travailler, se rétrécir et des choses comme ça. Et là, on a un produit qui se comporte, je dirais, comme un matériau tout à fait cohérent dans la durée et qui ne bouge pas, en fait.
D'accord.
Voilà. On a sans doute les meilleurs chercheurs ingénieurs du monde en termes de technologie de bois, que ce soit l'école du bois d'Épinal ou l'école de bois de Nantes. L'erreur qui a été faite, et c'est pas aujourd'hui, hein, c'est une erreur globale politique il y a une trentaine d'années, au lieu d'innover pour valoriser les bois des forêts françaises, on on a été importer des machines, des usines, des bancs de scierie dans le modèle adapté aux forêts suédoises et finlandaises. Et ensuite, les industriels de la filière ont dit, ben voilà, nous on a des machines qui ne peuvent couper, ne peuvent valoriser que ce type de bois. C'est pas le bois qu'on a dans les forêts françaises, donc mettez-vous à produire ce bois des forêts françaises. C'est une politique que je qualifierais de shadow, quoi. Et inverser cette politique, maintenant, c'est compliqué, parce qu'on est en crise économique permanente et il faudrait des investissements gigantesques pour adapter l'outil de transformation français.
Ça veut dire qu'on a planté des essences qui correspondaient au système industriel.
Je dirais que c'est dans ce sens-là, oui. Je dirais que c'est dans ce sens-là. Et il y a vraiment une pression qui est faite. C'est la vieille, le vieux débat, est-ce que la forêt doit s'adapter à l'industrie ou est-ce que c'est l'industrie qui doit s'adapter à la forêt? Et on a eu, il faut parler de ce problème d'adaptation de la forêt aux demandes de l'industrie. Alors il y a des régions où c'est difficile de faire autrement dans le massif landais tellement le sol est pauvre, mais pour le reste, lorsque les forestiers ont voulu s'adapter à la demande, d'abord, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur, c'est bien que souvent ça l'a été, et maintenant, c'est fortement interrogé par deux choses. Il y a d'une part, ce type de forêt est beaucoup moins résistant au changement climatique que des forêts mélangées, en particulier les essences feuillues en plaine, et puis la société refuse de plus en plus ce modèle de sylviculture qui est destiné à satisfaire les besoins d'une industrie qui est elle-même piégée par ses investissements.
Alors du coup, si je vous suis, donc on peut exploiter la forêt aujourd'hui sans la mettre en danger, ou ça dépend de son mode de gestion, c'est ça ?
En fait, ce qui se passe, c'est que la forêt, pour les forêts, que ça soit dans les forêts publiques ou dans les forêts privées d'une certaine surface, forêts publiques, toutes les forêts publiques, elles ont un document de gestion, hein, ça s'appelle un aménagement. Dans les forêts privées, ça s'appelle un plan simple de gestion. Mais ça définit un certain nombre de principes et c'est un document qui se suit dans le temps. C'est-à-dire que Hervé parlait d'un arbre, ça va jusqu'à 200 ans, hein, ça dépend des essences, il y en a c'est 80, il y en a d'autres c'est 160, enfin bon, tout ça c'est en fonction des essences forestières, mais ce document-là, c'est un document, je dirais, de planification et d'identification de comment la forêt elle est à un moment donné par rapport à son évolution depuis quelques années. Et donc, ce document, il y en a des trucs qui datent. Moi, j'en ai vu qui dataient des années 1780, quand j'étais en poste en forêt. Et ça permet de suivre, je dirais, l'évolution de la forêt, la gestion. Et le produit bois qui sort de la forêt, c'est pas quelque chose qui est fait comme ça en claquant des doigts aux doigts mouillés. C'est le résultat d'actions qui sont menées pour que la forêt, tout au long comme on la voit, elle soit toujours dans le même état. Alors évidemment, ça peut changer d'un endroit à un autre, parce qu'il y a des arbres plus vieux à un endroit, donc à un moment donné, ces arbres-là, on va les remplacer, il y a des jeunes qui vont repousser, mais globalement, ça peut être une mosaïque fluide. C'est-à-dire que si vous regardez la carte, vous aurez peut-être les choses qui vont se déplacer, mais globalement, la forêt, ça sera toujours la même. Voilà. Alors là, il y a les évolutions du climat qui viennent chambouler tout ça, comme l'a dit Hervé. Mais ces plans de gestion, quand on sort un mètre cube de bois d'une forêt, c'est pas simplement parce qu'on a dit tiens, aujourd'hui, on va aller couper du bois. Non, c'est une démarche rigoureuse, scientifique, qui amène à faire à un moment donné ce choix pour pouvoir assurer, la vie permanente de la forêt. Après, la forêt peut vivre sans le forestier, peut vivre sans l'être humain, mais c'est après on est dans autre chose. Voilà, c'est en termes de nature de forêt, subnaturelle. Hervé pourra peut-être mieux en parler. Moi, je crois qu'il doit en rester nous deux dans les Pyrénées, en quelques endroits perdus des Pyrénées, mais je crois que globalement toutes les forêts qu'on a en France, elles ont toutes
en métropole, dis-moi.
Voilà, en métropole, elles ont toutes à un moment donné une trace de la main de l'homme.
Oui, il faut reprendre l'histoire. Hein. On sait maintenant que l'homme intervient sur les forêts depuis très très longtemps, y compris même on découvre que dans les forêts amazoniennes, les hommes ont fortement orienté l'état de la forêt, mais il y a toujours ces phénomènes naturels qui fait que la forêt, c'est un peu comme une élastique. Hein. Quand on arrête de tirer dessus, elle revient sur un état antérieur avant le changement climatique. Et là, si on regarde l'histoire des forêts françaises, on peut dire que de la période néolithique jusqu'à 1900, ça a été un long, long déclin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la population augmentait d'un million d'hectares pour nourrir les gens, il y avait un million d'hectares de forêts qui passaient à la trappe. Quand on regarde les descriptions de l'état des forêts vers 1800, enfin 1750-1820, c'était pitoyable. La forêt était au bord de la disparition, en très mauvais état. On a eu un mouvement de forestiers, qui est une très très longue histoire qui se continue avec la création de l'école forestière à Nancy, avec la mise en place de conception de gestion, et je dirais d'emblée, les forestiers étaient des bio sans le savoir. Ils n'utilisent pas d'engrais, ils n'utilisent pas de pesticides, et ils imitent la nature. Nous, on a un proverbe qu'on nous a appris quand on est môme à l'école, être forestier, c'est imiter la nature et de faire en sorte que ça aille plus vite, hâter son œuvre. Et ce modèle-là est bien connu, ça s'appelle la sylviculture durable. Après, il y a des discussions techniques, est-ce qu'on fait de la futaie régulière, irrégulière, mais ça c'est un peu secondaire. Où il y a eu le grand changement et le grand risque, c'est lorsqu'à partir des années 70-80, certains se sont imaginés qu'on pourrait appliquer en forêt les modèles agro-industriels, pour avoir une espèce de foresterie industrielle. Mmh. Alors, heureusement, on n'est pas rendu au stade de l'agriculture, puisque sur les 17 millions d'hectares, on peut dire qu'il y a 2 millions d'hectares qui sont dans ce modèle effectivement productiviste et très productif.
Avec de la chimie aussi.
Sur les paysages, sur la biodiversité, et dont je pense qu'il il est un peu en bout de route, parce que la société n'en veut plus d'une part, et que d'autre part, le changement climatique va le mettre en cause. Mais il faut bien souvenir que c'est 2 millions d'hectares sur les 17. Donc, la meilleure preuve, c'est qu'on peut produire et exploiter du bois dans les forêts, c'est que depuis des milliers d'années, on le fait. Et imaginez un appartement, imaginez une maison. Moi, je suis dans une vieille maison du sud-ouest. On enlève le bois qui est dans la maison, c'est une ruine. Mmh. On enlève les parquets, les planchers, les chaises, les meubles, les fenêtres, il reste une ruine. Et ça, c'est le résultat d'une sylviculture durable qu'on sait pratiquer et qui est pratiquée par la grande majorité des propriétaires forestiers.
Alors on va revenir sur la gestion de la forêt dans la dernière partie de l'émission. On va faire une pause musicale et on écoute l'Escope, la forêt. Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec une émission de la quatrième dimension dédiée ce soir à la forêt.
On a évoqué tout au long de nos échanges là, on a parlé de l'ONF. Monsieur Gilles-Léon Pétaillard, est-ce que vous pouvez nous éclairer là ? On lit ici et là que voilà, il y a eu pas mal de conflits sociaux à l'ONF ces dernières années. Quelle est la situation actuellement au sein de l'ONF ?
Bah, la situation actuellement au sein de l'établissement ONF, elle est que on est dans l'attente. Le ministre que l'on a vu ce matin lors d'un comité technique ministériel a annoncé que la nomination d'un directeur général était imminente, ou d'une directrice générale était imminente.
C'est-à-dire que vous n'avez plus...
Pour l'instant, il y a un intérimaire, c'est-à-dire que il y a eu à l'Office national des forêts pendant une période, on va dire une période sombre, un directeur général qui avait, on va dire, pour rester poli, un management inadapté, voilà, et qui avait été, je dirais, laissé seul, sans contrôle du politique, parce que c'est quand même un établissement public. Et il a, j'irais, provoqué beaucoup de souffrance auprès des personnels, en tenant des discours totalement incompréhensibles, en disant que le forestier était archaïque. Enfin bon, il y a eu tout un tas de débats, on va pas rentrer dans le détail, mais c'était une époque un peu compliquée pour les personnels, beaucoup de souffrance. Et surtout aussi un tiraillement toujours entre, j'irais, le forestier, comme le disait Hervé, qui est là pour accompagner la nature, faire un certain nombre de choses, et puis de l'autre côté, des gens qui sont, on va dire, des cerveaux d'acier et qui font fonctionner des tableurs Excel et qui, à la fin de la journée, ne font que regarder l'argent qui est rentré, dans la poche de l'établissement. Parce qu'il faut savoir que l'établissement, quand il a été créé, l'objectif, c'était que le bois qui était vendu permettait d'entretenir la forêt. C'était le grand principe de base, de faire quelque chose qui tourne, un peu un mouvement perpétuel comme l'est le mouvement perpétuel de la forêt.
C'est-à-dire que l'ONF a uniquement des revenus issus de l'exploitation du bois et pas de...
Alors au départ, c'était ça, ce que ça représentait, Hervé, hein, tu pourras compléter, mais c'était 80% jusque dans les années 80, c'était 80-90, c'était 80% du budget de l'Office national des forêts venait de la vente des bois qui issus des forêts de l'État. Après, il y avait d'autres rentrées financières qui étaient le service rendu aux collectivités, donc qui générait de l'argent pour les collectivités, payaient le service rendu par l'Office national des forêts, compensait une partie par l'État. Et puis il y avait l'allocation de la chasse, il y avait l'entretien qui était payé par l'État pour les forêts, qui avait un rôle de protection contre les risques naturels. Enfin, voilà, tout ça fonctionnait. Et puis il y a eu le grand choc, c'est la tempête de 1999. Ça a complètement déstructuré, tout ce qui tournait autour de la filière bois en termes d'approvisionnement, parce qu'il y a eu des volumes énormes qui sont arrivés sur le marché. Et puis le matériau bois sorti de forêt, il n'y avait plus de valeur, en fait. On était dans quelque chose qui est devenu mondialisé. Et en fait, maintenant, actuellement, en 2019, le bois qui est vendu, si on le ramène en euros, par rapport à le bois qui était vendu en 1974, il est au même prix, avec l'ensemble des charges qui ont augmenté. Et en plus, au sein de l'établissement, ça ne représente plus que 30%. Chiffre d'affaires. Donc il y a un effet de ciseau qui est arrivé, c'est-à-dire que le prix a plongé, les charges, et puis que les gens soient mieux payés, c'est pas un souci pour un syndicaliste comme moi, c'est pas un souci. Mais à un moment donné, il y a eu une distorsion, et le prix du bois, en fait, alors c'est très technique, mais ce qui est important, c'est que le prix du bois n'est pas à sa valeur de remplacement. C'est-à-dire que aujourd'hui vous plantez un gland pour avoir un chêne dans 160-180 ans. Tout l'investissement que vous allez mettre chaque année pour qu'il grandisse, pour que il soit en bonne qualité, il y a des ouvriers qui vont venir travailler, il y a des forestiers qui vont venir le mesurer régulièrement, il y a toute une technique qui se voit pas au quotidien, mais qui existe pour que les beaux arbres qu'on voit aujourd'hui, à un moment donné, c'était des glands. Hein. Donc il y a toute une population de forestiers de tous niveaux qui s'en sont occupés. Et tout cet investissement, quand on le vend à la fin, parce que il y a ce besoin, de l'utilisation, et c'est noble, hein, c'est pas un gros mot. Et tout ça, c'est pas, quand on le vend, en fait, si on regarde tout l'investissement qu'il y a eu pour 180 ans, eh ben, on rembourse jamais ça. Ça, c'est ce que j'appelle la valeur de remplacement. Voilà.
D'accord. Et faut revenir à des choses essentielles. Il y a l'ONF, mais aussi chez les forestiers privés. Mais puisqu'on parle de l'ONF, de l'ingénieur à l'ouvrier forestier, ce sont des gens extraordinaires de conscience, d'amour de leur travail. Je mettrais ça sur le même plan que les enseignants, les infirmiers ou les pompiers. D'un autre côté, on demande ce qui était possible il y a 70 ans, de auto-financer leur activité. C'est un non-sens. Est-ce qu'on va demander à des militaires, à des enseignants ou à des médecins, des infirmiers, de financer leur activité. Le déficit de la forêt française, de la forêt publique, le déficit de l'ONF, Gilles, je parle sous ton contrôle, ça doit être de l'ordre de 30 millions d'euros par an.
Ouais, c'est 30 à 40 millions d'euros.
Oui, c'est rien au regard du budget de l'État, quoi.
Combien d'heures de vol, de rafales ça représente, combien de ronds-points, et même pas de kilomètres, mais combien de centaines de mètres d'autoroute. Donc il y a un moment où la société française, il faut aussi savoir ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut des paysages, de la biodiversité, des endroits? Et est-ce qu'elle laisse, tout gouvernement confondu, les gens de Bercy disent « débrouillez-vous, vous n'avez qu'à vendre plus de bois ». Et on est dans une situation, on parle de l'ONF qui est en train d'être... dont on ne sait toujours pas si l'État va prendre ses responsabilités d'abord de propriétaire pour assurer le maintien de son patrimoine, mais il y a aussi les menaces actuelles sur la forêt privée, puisque pour une obscure opération de réduction de taxes, je ne rentre pas sur le détail, sur la fiscalité rurale, c'est l'avenir même du CRPF, c'est-à-dire les techniciens et les ingénieurs qui s'occupent de la forêt privée, qui est mis en cause. Donc là, on est dans un système qui est aberrant, c'est-à-dire tout le monde dit la forêt c'est génial, la forêt c'est super, faut pas qu'elle disparaisse, et d'un autre côté, on n'est pas capable de dégager une piche nette de notre produit intérieur brut pour assurer le maintien de 30% du territoire.
Alors, ce qu'il faut savoir en termes de quelques chiffres pour la forêt, pour voir ce qu'elle fait, et que les gens ne se rendent pas compte. Ça, c'est à partir de données par nos collègues forestiers allemands, hein, du Rheinland-Pfalz, de la Rhénanie-Palatinat, et eux, ils ont fait des études, et un hectare de forêt, je vais vous donner quelques chiffres quand même, c'est un stockage de 338 tonnes de carbone, de CO2 par an. C'est filtrer 50 tonnes de poussière par an. C'est produire 21 tonnes d'oxygène. C'est filtrer 1000 mètres cubes d'eau par an. Et ça produit chaque année en moyenne, après c'est suivant les régions, mais on est sur 6 et 8 mètres cubes de bois par hectare et par an. Et tout ça, on voit pas, c'est
des services rendus qui sont pas
voilà, il y a tout, il y a
des tout externalités positives qui rentrent
protection
pas dans les calculs économiques.
Protection des sols. Moi, je suis dans un département où on a des où la qualité de l'eau telle qu'elle est, pas au robinet, mais telle qu'elle est pompée, pose problématique. Il y a beaucoup de régions où on a un vrai sujet autour de ça. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais curieusement, quand on va chercher de l'eau en dessous des massifs forestiers, elle est toujours d'excellente qualité. Ça, c'est parce qu'il y a eu pendant des années des forestiers qui ont fait un super boulot, qui ont accompagné la nature. Donc ça, c'est pas pris en compte. Quand vous allez... l'hiver pour faire du ski en zone de montagne, il y a certains endroits, s'il n'y avait pas la forêt, eh ben vous seriez bien en mal de pouvoir faire du ski. Il y a tout un tas de vallées, la vallée de Chamonix, la vallée de la Tarentaise et autres, la Maurienne, s'il n'y avait pas les forêts qui tiennent les sols, qui évitent qui ralentissent les phénomènes d'inondation, on ne pourrait pas avoir les activités économiques qu'on a dans les vallées.
Donc des services rendus très importants. Et voilà, je voulais en venir au dernier point de l'émission. C'est que quand vous disiez voir ce que la société, il y a des choix de société finalement à faire. On a l'impression là un peu que ça bouge en ce moment d'un point de vue politique, citoyen, association. Donc je sais pas si vous voulez nous faire un petit état des lieux de ce qui est en train de bouger.
Je pense
ce qui...
que là on est un secteur clé. Alors il faut dire aussi que le monde forestier a aussi ses responsabilités. La forteresse forestière, c'est-à-dire le sentiment, et je prends ma part de ça parce que j'ai été forestier à l'ONF et c'est assez général, le sentiment qu'on fait bien et qu'on fait ça à l'intérieur des limites de la forêt et que le reste de la société n'a pas à s'en préoccuper, c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Mais maintenant, et c'est d'ailleurs face aux enjeux climatiques et aux menaces de désintérêt de l'État, j'espère qu'est en train de se mettre en place un rassemblement des forestiers. Alors je sais que les syndicats, on l'a vu aujourd'hui, les syndicats en intersyndical, tous les syndicats forêt publique comme forêt privée ont interpellé le ministre et demandé que ce devienne une grande cause nationale et qu'il y ait d'abord l'argent pour la connaissance, pour la recherche et pour les forestiers et qu'on cesse de fermer les structures, et FNE se retrouve complètement dans ses revendications. D'ailleurs, on avait été avec les syndicats, on avait signé il y a un peu plus d'un an l'appel de Troncet. Mmh. Mais je souhaiterais que ça aille beaucoup plus loin, que le monde forestier s'ouvre, que la société vienne discuter avec les forestiers et qu'on arrive à se mettre ensemble, d'abord pour regarder les choses en face. Il y a des choses à FNE qu'on considère que ça doit disparaître, les coups de bras, on considère que ça doit disparaître, que les pesticides n'ont pas leur place en forêt, mais à l'inverse, accuser un forestier d'être un arbricide, presque un assassin parce qu'il coupe un arbre, ça c'est des choses qui sont inacceptables non plus. Et je pense qu'on est, votre émission le fait, on est à un moment où la société et les forestiers doivent se rencontrer et parler.
D'accord.
Et c'est un vrai sujet. Et là, on a un vrai problème parce que on était dans une réunion, un comité technique ministériel qui regroupe les représentants des personnels du ministère de l'Agriculture, et on avait le ministre entre nous, devant nous. Et ce matin, le ministre a présenté le budget du ministère de l'Agriculture. Et dans, il avait ses grands axes, il nous a présenté ses grands axes. À aucun moment, alors que le ministère a la responsabilité de la mise en œuvre de la politique forestière nationale, hein, politique publique, hein, n'a absolument pas parlé de que la forêt était une des priorités. Alors qu'on est en train de vivre, vous allez sur le site d'un de vos collègues, c'est France TV Info, on est en train de parler du drame de la forêt en Allemagne, avec les scolytes, avec, l'Allemagne fédérale, le ministère fédéral de l'agriculture, qui n'est pas du tout compétent pour la forêt, puisque ça dépend des Landes, a quand même mis sur la table plus de 500 millions d'euros pour remettre en état les forêts qui sont dramatiquement attaquées par les scolytes.
Il y a un travail de prise de conscience faire, là.
Voilà. Et en France, j'ai l'impression, j'ai envoyé le texte à mes collègues et puis je passerai à Hervé Le Bouler, j'ai fait la remarque, j'ai dit, j'ai l'impression qu'on est comme en 86, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté sur le Rhin.
Oui, d'accord, oui.
Et les scolytes...
Est-ce que les scolytes ne vont pas traverser?
Non, ils ont traversé.
Nous, déjà.
Oui, non, mais...
On est à 10 millions de mètres cubes dans les deux ans qui vont claquer. Non, mais oui. C'est pour ça que la position de FNE aujourd'hui, c'est de dire... comme des grandes ONG d'ailleurs, on a sur l'avenir de l'ONF produit avec le WWF, avec la Ligue pour la protection des oiseaux,
Humanité et biodiversité,
la Fédération des réserves de France, j'oublie pas la Fédération des parcs naturels régionaux.
Très rapidement, parce que l'émission touche à sa fin.
On a dit une chose, il faut soutenir les forestiers, il faut soutenir la forêt, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas discuter et poser les questions par rapport à un certain nombre de choses qui se font et pour lesquelles FNE dit qu'ils doivent cesser de se faire. Mais globalement, moi je profite ici de le lancer, mais je pense qu'on le lancera un peu partout, je lance un appel à la prise de conscience. L'avenir des forêts en France est menacé par le changement climatique, il est menacé par le manque d'intérêt réel. Vous parliez de savoir si les arbres communiquent entre eux et si les parents chênes nourrissent leurs bébés. Moi, je suis désolé, mais ça, on n'a plus les moyens de... On peut discuter le soir autour d'un verre si c'est vrai ou pas, mais la situation est beaucoup trop grave aujourd'hui pour que on s'en tienne à ça, quoi. Faut avoir conscience. Là, on est à Paris. Les forêts du sud, les forêts de Fontainebleau sont en situation gravissime sanitaire. Les forêts de Compiègne et de Chantilly sont en train peut-être de mourir. On a parlé de Chirac, la forêt brûle et on regarde ailleurs, quoi. Voilà.
Et moi, je vous dis, j'ai une phrase, parce qu'on était donc à un congrès avec nos collègues forestiers européens. On avait des collègues qui venaient de la Suède et des collègues qui venaient de Chypre. Donc c'était pour vous dire que voilà, on a une structure européenne qui voilà, et on a un professeur de l'école polytechnique de Zurich qui nous a dit très clairement. On n'a plus le temps de faire de la recherche fondamentale, il faut faire de la recherche appliquée et de la recherche de développement local.
D'accord, et pour sauver...
En conclusion, il nous a dit, la bioéconomie, donc tout ce qui tourne autour du bio, La bioéconomie est intimement liée à la forêt. Et si on veut qu'elle s'adapte au changement climatique, il faut donc investir massivement en forêt.
D'accord. Merci, voilà. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Alors peut-être un petit dernier mot à destination du grand public d'Île-de-France qui nous écoute, peut-être pour découvrir une forêt. Est-ce que vous avez un conseil, Fontainebleau?
Eh ben c'est simple. Vous allez en transport en commun, ouais. Mieux qu'en voiture. Et puis dès que vous voyez des petits hommes verts, vous arrêtez, puis vous allez discuter avec eux, vous allez voir, c'est super. Ils vont vous raconter des tas de trucs. Et puis
voilà.
Évitez de relayer, d'écouter tout un tas de bêtises qu'on raconte sur les forêts et les forestiers.
Voilà. Et les forestiers, quand vous allez les voir, c'est des gens qui sont passionnés. Hervé l'a dit. Moi, j'en suis un aussi. On peut vous tenir toute la soirée si vous voulez. Et il y a un élément important, c'est que quand vous allez voir un forestier sur le terrain, il va pas vous parler de la forêt comme voilà, il va vous parler de sa forêt. Il y a un lien très fort entre le forestier et la forêt dans laquelle il travaille. Et je peux vous dire, moi j'ai des souvenirs douloureux de collègues qui sont tombés dans des graves dépressions après la tempête de 99, quand ils ont vu des forêts autour de qu'ils avaient gérées, dont ils étaient responsables, mais dans le bon sens du terme. Ils savaient la lourde charge qu'ils avaient vis-à-vis d'elles et qu'elles avaient été complètement détruites par la tempête de 99. Et actuellement, on va avoir le même type de phénomène sur un tas de forêts dans l'Est. Et il y a un cri d'alarme qu'un de mes collègues vient de me faire passer cet après-midi. La forêt de Verdun. Verdun, c'est le champ de bataille de Verdun, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la zone rouge, et ça a été planté. Les arbres qui sont plantés sur cette zone-là sont tous en train de crever sur pied. Des centaines d'arbres, des milliers, c'est des centaines d'hectares. Les sapeurs-pompiers ont dit très clairement que si on ne pouvait pas exploiter ces arbres rapidement, que si un incendie devait se déclarer, ils n'iraient pas. Parce que sur Verdun, tout le monde le sait, il reste des tonnes de munitions hectare de forêt. Et un ouvrier qui les a connus, qui est maintenant en retraite, il m'a dit très clairement, si jamais ça brûle, eh ben là, peut-être que le gouvernement bougera, parce qu'on entendra les détonations jusqu'à Paris, et on aura des victimes, parce qu'il y a encore des obus avec de l'hypérite et du gaz moutarde à l'intérieur. Voilà.
Dur de bien faire là-dessus, là.
Ben ouais, mais c'est ça, mais ça veut pas dire qu'il faut pas se battre, hein.
Ouais, bien sûr.
Ça veut pas dire qu'il faut pas se battre, mais je vous dis, c'est l'inertie qu'on constate actuellement en France, de la part, j'irais, du politique dans le grand sens du terme. C'est-à-dire que, actuellement, nous, on a des échos. Il y a tout un tas d'élus dans l'est de la France qui sont en train de voir, parce qu'ils sont responsables de communes et qui savent qu'ils ont des élections et qu'ils vont devoir rendre des comptes à leurs électeurs en disant « qu'est-ce que vous avez fait pour notre forêt communale ? Elle est en train de crever et vous n'avez pas bougé ?» Ils alertent leurs députés de circonscription et il commence à y avoir un mouvement de gens qui disent « mais où sont les gens de l'État qui prennent conscience qu'on est, on n'est pas dans une crise ponctuelle, on est dans une crise qui va durer. » Et quand on va se rendre compte que, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, si les forêts disparaissent, il y a tout un tas de choses. Le changement climatique, nous, les forestiers, qui sommes au contact du milieu naturel tous les jours, comme les gens de la profession agricole, mais nous, sur des choses qui sont dans la durée, on peut vous dire que le changement climatique, il est déjà là. Et il y a toute la forêt méditerranéenne qui est en pleine mutation, qui est en train de remonter vers le nord, et tout ce qu'on avait, je dirais, à une époque, et ça c'est nos collègues, je crois que c'est FNE qui a fait une enquête là-dessus, tu pourras peut-être en parler, mais ils sont en train de constater qu'il y a une dégradation, c'est-à-dire ce qu'on avait en forêt méditerranéenne à un moment donné, maintenant ça vient en fonction des sols, du maquis ou de la garrigue. Et puis tout ça, c'est en train de se décaler vers le nord, et j'ai des collègues forestiers sur le terrain qui m'ont dit qu'ils le voyaient quasiment d'année en année, je dirais, cette rupture et cette évolution au niveau de la forêt, quoi.
Très bien, merci beaucoup Hervé Le Boulaire et Gilles Van Peteghem d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant et on a entendu vos alarmes qui sont celles des forestiers aujourd'hui. Donc merci à vous pourrez réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin
pas en entier, mais
sur Fréquence Paris Pluriel. Et puis vous pouvez la télécharger sur le site Mode d'emploi. La prochaine émission aura lieu le 25 octobre et ça, on traitera du pétrole, donc la cause du dérèglement climatique.
Ça va être
intéressant. Voilà, on vous remercie encore. Bonne soirée à tous et à toutes.
Bonsoir.
Bonsoir. Bon.
Nous terminons par The Cure, A Forest.